Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, herzlich willkommen.
Chers téléspectateurs, chers amis, bienvenue pour cette émission sur le thème « Trouver Dieu, où, comment ?». Le thème de cette émission, que nous allons lire ensemble, a été écrit par Gabrielle, la prophétesse et messagère de l'Esprit libre. Elle y reprend les questions que se posent beaucoup de gens et commence ses explications par ces paroles. Je cite « Notre époque est bruyante et agitée, et toujours plus de personnes se posent des questions au sujet de Dieu. Où est Dieu et comment l'atteindre ? Ou encore, Dieu existe-t-il réellement ? Ou, si Dieu existe, pourquoi ne se manifeste-t-il pas ? Ou encore, je ne crois pas à Dieu, car en regardant de plus près ce qui se passe dans ce monde, on se rend à l'évidence que l'existence d'un Dieu ne peut être qu'une fable.
Dass die Existenz eines Gottes nur eine Fabel ist.
Wieder ein anderer meint.
Une autre personne se dira, lorsqu'on pose la question de savoir pourquoi Dieu tolère un tel chaos dans notre monde, certaines religions évoquent les secrets de Dieu. Et en poussant la réflexion un peu plus loin, il se dit « J'ai cherché dans différentes religions et j'ai cru, ici et là, avoir trouvé une étincelle de vérité. Parfois, conquis par les nombreuses étincelles de vérité, j'ai cru être arrivé au but et je suis entré dans cette religion. Mais, rapidement, des doutes m'ont envahi et des questions ont surgi. À quoi bon cette étincelle de vérité, car elle ne m'a pas transformé, bien qu'on me l'ait promis. Devenu méfiant et sceptique, je me suis dit que d'autres religions devaient certainement posséder, elles aussi, certaines étincelles de vérité éternelle. Si l'on rassemblait toutes les étincelles de vérité des différentes religions, est-ce qu'alors on aurait trouvé Dieu ? Ma déception continue à augmenter et je me dis, j'ai cherché et cherché encore et j'ai été dans plusieurs religions, mais jusqu'alors, je n'ai ni vu ni trouvé Dieu.
Habe ich bisher weder geschaut noch gefunden.
Der Gottsucher zieht daraus folgende Erkenntnis.
Et voici les conclusions que le chercheur de Dieu tire de tout cela. Ces réflexions m'ont amené à penser que je ne suis certainement pas le seul à me poser cette question. Où est Dieu ? Où le trouver ? Pourquoi se cache-t-il à nous, lorsqu'on accepte pourtant ce qu'on nous présente comme étant la vérité sur ce qu'il est censé être ? Malgré tout, je ne veux pas abandonner ma recherche, bien que mes doutes sur l'existence de Dieu grandissent de jour en jour, surtout lorsque je vois l'accoutrement vestimentaire des autorités religieuses qui le représentent extérieurement. Je me demande pourquoi Dieu souhaite que ses soi-disant représentants se déguisent ainsi et que l'on fasse tant de chichi autour de leur personne. Et lorsque, habillés de leur tenue d'apparat, ils prêchent l'humilité, alors que tant de personnes ont faim, ont à peine un abri et pas les moyens de s'habiller correctement, je commence de nouveau à douter de l'existence de Dieu. Leurs couronnes, serties de pierres précieuses, autant que leurs humbles calottes, entre guillemets, censées couvrir leur tonsure, soulèvent en moi des questions. Pourquoi y a-t-il besoin de tout cela ? On se demande vraiment ce qui se cache derrière tout cela. Lorsqu'on parle avec certains de ces représentants de Dieu, on en vient à la conclusion qu'ils sont bien plus éloignés de la vérité que ne l'est un simple chercheur de Dieu qui a la foi. Voici le résumé que fait pour finir le chercheur de Dieu. Toutes les autorités religieuses sont d'avis que leur religion est celle qui apporte le salut, que seule leur religion détient la vérité.
Chers amis, si vous le voulez, réfléchissez à ce qui suit. Personne n'a besoin de se déplacer ici ou là pour trouver Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Esprit éternel, qui en Occident est appelé Dieu, est omniprésent et est ainsi également dans l'âme de chaque être humain. Gabriel écrit ceci. L'Esprit libre de l'infini, l'Esprit omniprésent, Dieu, est dans les règnes de la nature, en chaque arbre, en chaque petite plante, dans le brin d'herbe, dans l'animal, dans la pierre, dans le puissant cosmos, se trouve l'Esprit éternel qui agit en toutes choses. Pour trouver Dieu, nous n'avons pas besoin d'aller ici et là. Pour prier Dieu, nous n'avons pas besoin de nous déguiser. Repensons à ces paroles de Jésus de Nazareth. Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Fin de citation. Dieu est donc en nous. Dieu est autour de nous. Dieu est au-dessus et en dessous de nous, à notre droite et à notre gauche. Il est l'Esprit libre, la vie en toute chose.
Même si nous cherchons intensément Dieu dans des religions, dans des communautés ou groupements spirituels, même si nous avons des prises de conscience, des déclics au sein des églises institutionnelles, avec le temps, pourtant, tout devient vide et fade. Car celui qui n'a pas trouvé Dieu au plus profond de son âme reste à sa recherche et continuera éventuellement sa pérégrination d'une religion à une autre, d'une communauté ou d'un groupe spirituel à un autre. Pour que nous nous rapprochions de lui, Dieu, l'Éternel, nous a donné à travers Moïse les 10 commandements et à travers Jésus de Nazareth les enseignements célestes contenus dans son sermon sur la montagne. Les 10 commandements et les enseignements de Jésus de Nazareth ne sont cependant que des extraits de la loi éternelle, universelle de Dieu, de son amour et de sa liberté, qui sont la vie véritable. Celui qui, par contre, donne plus d'importance à son apparence et à sa manière de paraître qu'à Dieu, et qui se rassure en se disant ce qu'il désire, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir la foi et de suivre les coutumes et les traditions des religions extérieures, ne trouvera jamais Dieu, même s'il pense avoir trouvé ici et là beaucoup d'étincelles de vérité. Un jour ou l'autre, toutes les étincelles extérieures perdent de leur éclat. L'être humain continue à chercher Dieu et à être insatisfait jusqu'à ce que l'être humain et l'âme aient retrouvé en eux-mêmes leur origine, la racine de la vie, et que l'âme repose dans l'océan de la vie.
Tout particulièrement à l'heure actuelle, beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu nous a donné les 10 commandements et Jésus de Nazareth, son sermon sur la montagne. La connaissance des 10 commandements de Dieu et des enseignements que Jésus apporta dans son sermon sur la montagne nous a-t-elle rendus plus intelligents? Nous a-t-elle rapprochés de Dieu? Comme nous venons de le dire, pour trouver Dieu, il n'y a besoin ni de religion extérieure, ni d'intermédiaire. pas plus que de communautés qui lient ses membres ou ont des intermédiaires. C'est nous et nous seuls qui devrions chercher Dieu et le trouver au plus profond de notre âme, car Jésus de Nazareth nous a entre autres enseigné que Dieu était en nous et nous a expliqué comment nous devrions prier. Il dit, « Mets-toi quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Celui qui croit aux enseignements de Jésus de Nazareth croit immanquablement à l'existence d'une âme immortelle au plus profond de laquelle habite et agit l'esprit libre et éternel de l'infini que les hommes appellent Dieu en Occident.
Wir Menschen haben eine sonderbare Angewohnheit.
Nous, les êtres humains, nous avons la curieuse habitude de rendre les autres responsables de tout ce qui nous arrive de négatif. Nous montrons du doigt ce que les autres font ou ne font pas. C'est toujours la faute des autres qui agissent mal ou ne font pas ce qu'il faut faire. Il nous faut changer notre manière de voir les choses et comprendre que chacun de nous est lui-même responsable de sa vie sur Terre, de ce qu'il fait et ne fait pas. Nous devons nous-mêmes trouver ce qui ne va pas dans nos sensations, sentiments et pensées, ainsi que dans nos paroles et dans nos actes. Celui qui fait l'effort de s'observer de plus près remarquera progressivement qu'il est en quelque sorte un faussaire, car ce qui se déroule derrière ses sensations, pensées, paroles et actes est la plupart du temps bien différent de ce qu'il laisse paraître, voire même de ce qu'il fait croire aux autres. Nous sommes donc des faussaires. Nous agissons, en fin de compte, contre nous-mêmes, contre le rayonnement de notre âme et aussi contre notre corps qui souffre de notre éloignement de Dieu et peut même en tomber malade. Nous nous faisons à nous-mêmes ce que pourtant nous ne voulons pas. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables de ce qui nous arrive, nous sommes nous-mêmes les fautifs.
Nicht wollen. Nicht der andere ist schuld an dem, was uns widerfährt. Wir sind die Schuldigen.
Unsere Schuld steckt also hinter unseren Verhaltensweisen.
Notre faute se cache derrière notre comportement, derrière nos sensations, nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est ce que nous sommes et que nous faussons. Un jour ou l'autre, nous reconnaissons notre fausseté et humblement, nous demandons son aide et son soutien à l'Esprit omniprésent. Il nous faut aller vers Dieu, faire le premier pas vers lui en vainquant notre propre fausseté avec son aide. Celui qui observe ces aspects négatifs à la lumière des 10 commandements et des enseignements de Jésus de Nazareth reconnaît rapidement qu'il s'est détourné de Dieu. Les soucis, la détresse, la souffrance ou la maladie devraient nous amener à réfléchir à ce que nous avons nous-mêmes causé et à ne plus rendre Dieu responsable de notre malheur. Tous ces indicateurs, y compris notre insatisfaction, montrent que nous sommes à la recherche de Dieu. Gabriel explique ce qui suit. Que nous l'acceptions ou pas, chacun de nous est plus ou moins insatisfait. Parce que notre âme est à la recherche de Dieu, notre patrie éternelle, l'océan de la vie véritable, car au plus profond de notre âme, l'être pur que nous sommes vient de l'existence éternelle pure.
Chers amis, celui qui prend régulièrement le temps de réfléchir à lui-même peut ressentir en lui cette insatisfaction et qu'il est, en fait, à la recherche du but éternel. Même si nous ne voulons pas nous l'avouer tout de suite, un jour ou l'autre, nous ressentons en nous une douleur profonde, indéfinissable. C'est la nostalgie de notre origine, l'aspiration profonde à rentrer à la maison, auprès de l'Éternel, dans le royaume de Dieu, notre patrie éternelle. Lorsqu'on est jeune, il y a beaucoup de choses que l'on ne veut pas voir. On croit pouvoir trouver le bonheur et la satisfaction durable en vivant ce qui nous passionne et nous fascine. En vérité, ce n'est qu'une illusion, car dans le monde temporel, rien ne dure. Avec l'âge, beaucoup de personnes prennent conscience qu'elles sont insatisfaites et elles remarquent qu'elles ont toujours cherché quelque chose, sans savoir exactement quoi. Bien que ce monde leur ait donné toute la considération et les biens matériels souhaités.
Directement ou indirectement, tous les êtres humains et toutes les âmes sont à la recherche du but éternel, du courant éternel, l'océan de la vie. Chacun d'entre nous devrait reconnaître qu'en fin de compte, il n'est sur Terre qu'un pèlerin qui, un jour ou l'autre, quitte son habit terrestre. Et que se passe-t-il alors ? Même si certains exploitent leur prochain et vivent sur Terre dans la cupidité et la débauche, chacun se retrouve un jour devant cette question. À quoi a servi tout cela? Qu'est-ce que j'ai fait à mon âme? Qu'emportera-t-elle lorsqu'elle quittera ce monde? Celui qui croit à une existence au-delà de cette vie terrestre est bien obligé de se demander où il ira alors, c'est-à-dire où ira son âme ensuite.
Jegliche Unzufriedenheit ist das Pochen im Urgrund unserer Seele.
Toute forme d'insatisfaction nous montre que notre âme se manifeste au plus profond de nous. Elle frappe à la porte de nos sensations, de notre conscience, parce qu'elle s'est détournée de son chemin qui devrait la reconduire jusqu'à la maison du Père éternel. Elle frappe également à la porte des pensées, des paroles et des actes de l'homme. Ce signal qui remonte du plus profond de notre âme est un appel à rebrousser chemin et à entrer dans le temple du Très-Saint, profondément en notre âme, afin de suivre les indications contenues dans les 10 commandements et dans les enseignements de Jésus de Nazareth. Le chemin qui conduit à l'origine profonde de notre âme est, en fin de compte, de faire de l'ordre dans notre temple. Celui qui ne s'interroge pas afin de savoir ce que contiennent véritablement ses sensations, ses pensées ou ses actes, tout son comportement, est comme un navire qui dérive sur l'océan. À un moment ou à un autre, il chavire, et l'équipage ne sait pas où le navire s'est échoué. C'est la panique. Un des membres de l'équipage appelle à l'aide. Un autre appelle Dieu. Un troisième, une équipe de sauvetage. Chacun pense plus ou moins à son propre sauvetage, au sauvetage de son corps physique. Lesquels sont les plus près d'être sauvés? Ceux qui lancent leur appel en direction de ce monde ou ceux qui, d'un cœur sincère, s'interrogent sur la vie véritable et appellent Dieu, chacun pourra lui-même répondre à cette question et voir vers où se tournerait son propre appel.
Le monde parle parfois de miracles. On entend par exemple « c'est un miracle ». Cependant, dans toute notre existence terrestre, il n'y a pas de miracle. Il n'y a que l'aide juste provenant de l'amour éternel et de la sollicitude de Dieu. La loi éternelle de Dieu est la loi de l'amour et de la sollicitude portée à toute vie. Dans la loi de la vie qui englobe tout et qui est unité, il n'y a ni conjuration, ni encens, ni mortification, ni auto-adulation, pas plus que de cérémonie, de culte des prêtres ou de prière toute faite. Il n'y a ni missionnaire aumônier, ni rituel, ni culte du sacrifice, ni religion extérieure, ni relique, ni saint, ni hypocrite, ni adoration d'image ou auto-idolâtrie. La loi de Dieu est valable pour tous les hommes, y compris pour le « naufragé », entre guillemets, qu'il ait pu être sauvé ou qu'il se soit noyé.
Wer der Ansicht ist, ein gläubiger Mensch zu sein, müsste die Tempelordnung wissen.
Celui qui considère qu'il est croyant devrait avoir connaissance de ce que Jésus de Nazareth nous a enseigné concernant l'ordre du temple et savoir que chaque être humain est lui-même le temple de l'Esprit-Saint. Il devrait chaque jour se rappeler de ce message lorsqu'il prie, voire même lorsqu'il veut se rendre dans un temple de la foi fait de mains d'hommes. Il remarquera alors rapidement qu'il devient plus libre et plus conscient de la présence de Dieu. Celui qui ramène à sa conscience les paroles de Jésus n'a pas besoin de tous les chichis des prêtres et des pasteurs, mais uniquement de l'enseignement suprême qui dit « Dieu est l'esprit libre, l'esprit omniprésent qui vit dans la nature et dans l'animal autant qu'il vivifie la pierre, la terre entière et tous les cosmos ». En quelque sorte, chaque être humain est un naufragé qui végète sur une île cosmique qu'il appelle la Terre. Où ira son âme lorsque son existence terrestre aura pris fin? Au plus tard, lorsque sonne sa dernière heure, chaque être humain, consciemment ou inconsciemment, souhaite que son âme retrouve l'océan de l'amour éternel pour y vivre éternellement. C'est l'appel de notre âme qui porte profondément en elle sa patrie éternelle.
Chers amis, si vous pouvez affirmer l'existence de l'esprit libre, sans rituel, ni tout ce qui a été créé autour du mot « Dieu », vous ferez les pas qui vous rapprocheront des 10 commandements de Dieu et des enseignements de Jésus de Nazareth, y compris son sermon sur la montagne. Qui sommes-nous pour dire cela? Nous sommes des successeurs de Jésus de Nazareth, qui a enseigné l'esprit libre, Dieu, et a montré par sa vie que pour être proche de Dieu, l'homme n'a pas besoin de dogmes, de préceptes ou de rites, ni de prêtres ou de pasteurs. Les successeurs de Jésus de Nazareth ne composent pas une religion extérieure ni une communauté, au sens habituel du terme, à la tête de laquelle se place un leader et dans laquelle les membres sont des moutons de Panurge. Ce qui rassemble les successeurs de Jésus de Nazareth, c'est qu'ils se sentent proches et se comprennent parce qu'ils appartiennent à l'esprit libre. Jésus de Nazareth a dit aux hommes à peu près en ces termes, « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. »
Régulièrement, des personnes se demandent où elles peuvent trouver ce type de communauté libre. Dans l'œuvre mondiale du Christ de Dieu, dans le Centre international du christianisme des origines pour toutes les cultures, se trouve une communauté ouverte dans laquelle celui qui cherche sincèrement a la possibilité de s'informer. À tous ceux qui cherchent une communauté ouverte et libre, nous conseillons ce qui suit. Si vous connaissez des personnes qui partagent les mêmes aspirations que vous, vous pouvez tout simplement vous retrouver de temps en temps pour prier ou échanger vos expériences sur le plan spirituel, afin d'apprendre les uns des autres, de grandir et de mûrir spirituellement. Encore une fois, l'homme n'a pas besoin de religion extérieure, de traditions et de coutumes religieuses. Chacun de nous devrait penser et vivre dans la conscience que Dieu est en chaque homme, au plus profond de l'âme de chacun. Les successeurs de Jésus de Nazareth prient comme leur dicte leur cœur, sans utiliser de prière toute faite, en se tournant vers l'intérieur d'eux-mêmes.
Bien que Dieu, l'Esprit de notre Père céleste, sache toute chose, certains ressentent le besoin de dialoguer avec lui. C'est cela la prière, exprimer ce qui nous tient à cœur, la prière du cœur. Celui qui prie le fait au plus profond de son âme, en se tournant vers Dieu en lui-même. La prière tournée vers l'intérieur et l'accomplissement progressif des 10 commandements de Dieu donnés à travers Moïse ainsi que des enseignements de Jésus de Nazareth nous aident à reconnaître nos aspects pécheurs, à nous en repentir, à les mettre en ordre et à ne plus les répéter. La prière intérieure, libre, amène à se développer et à mûrir spirituellement et nous enrichit de vie avec un grand V, de liberté, d'harmonie et surtout d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Ce chemin intérieur, ce chemin de la liberté, ne nécessite ni prêtre ni pasteur, ni de ce qu'ils appellent les maisons de Dieu faites de main d'homme. Chacun de nous porte au plus profond de son âme le sanctuaire suprême Dieu.
Gabriel écrit ce qui suit à partir de sa propre expérience. La nature peut, elle aussi, nous aider à nous libérer des prières toutes faites des pasteurs et des prêtres. Si nous prenons soin d'elle avec amour, elle peut devenir un jardin de Dieu qui vivifie nos sens avec l'esprit de la liberté. À chaque saison, la nature est la parole de la création, la parole de Dieu. À chaque saison, la nature nous présente ce qu'elle fait fleurir, mûrir et offre. Elle n'en fait pas toute une histoire, car elle sait que la force créatrice perdure parce que Dieu est la vie. Notre comportement devrait ressembler à celui de la nature, qui repose au sein du puissant Esprit créateur, au sein de la vie. La parole omniprésente du Créateur, la parole de l'Éternel, dit « Je suis le Je suis ». La vie de toute éternité. Si vous le souhaitez, plongez-vous dans le courant universel de la vie qui est en chacun de nous, autour de nous, au-dessus de nous et au-dessous de nous. C'est la vie omniprésente, Dieu, l'Esprit libre de notre Père céleste, dont nous sommes les enfants.
Chers téléspectateurs, chers amis, à la fin du manuscrit dont nous avons aujourd'hui fait la lecture sur le thème « Trouver Dieu » ou « Comment ?», Gabriel écrit « Des successeurs de Jésus de Nazareth souhaitent à leurs contemporains ainsi qu'à eux-mêmes de grandir et de mûrir spirituellement dans la prise de conscience que là où deux ou trois sont rassemblés au nom du Christ de Dieu, l'Esprit vivant et libre est parmi eux est parmi nous.
Mitten unter ihnen, mitten unter uns.
C'est dans cette conscience que vous saluez des frères et des sœurs de l'esprit libre. Dans cet esprit, nous vous adressons une chaleureuse salutation en Dieu. Au revoir.